vivrons-nous demain ? Par Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons notre émission sur l'urbanisme et l'architecture avec, l'événement qui s'est passé en mois de février et mars, le confinement, et ce que les Français ont pu découvrir dans ce changement de mode de vie par rapport à leur logement. Et nous allons en parler dans la première partie, ce qui a trait au logement dans lequel on vit et aux dépendances. Et il est vrai que le rapport du confinement par rapport aux dépendances, les Français, dans cette période difficile, ont découvert ceux qui n'avaient pas justement des dépendances qui pouvaient être des lieux de stockage dans les maisons individuelles ou dans les maisons anciennes, les greniers, les caves, les celliers, et ceux qui vivaient dans des appartements modernes où, effectivement, depuis quelques décennies, on a éliminé progressivement tous ces lieux qui étaient tout à fait compris dans le logement auparavant. Alors, il y a plusieurs raisons au phénomène. Les premières sont liées à l'absence de domesticité et aussi au fait qu'il y a des tâches comme les préparations de repas qui sont probablement plus condensées et le stockage qui était une nécessité au niveau alimentaire, par exemple, les garde-manger, les caves. Aujourd'hui, on avait un système de distribution de l'alimentation qui a changé. Mais justement, dans cette période qui a été assez difficile, on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes qui avaient, par le fait de logements plus grands ou de logements anciens par rapport à ceux qui avaient des logements modernes, ont été particulièrement favorisés. Et à l'inverse, ceux qui avaient des logements récents ne l'étaient pas. Bon, il y a plusieurs, comme je vous disais, plusieurs raisons à cela, qui sont à la fois sociologiques, économiques. Et quand je vous parle de ces dépendances de nécessité, il y a aussi des dépendances de vie qui sont les balcons, les loggias, des lieux d'agrément qui ne sont pas très très chers, mais qui, dans le contexte de l'économie et de la réglementation, ont petit à petit disparu au cours des 30 dernières années. Alors, ça va reposer un problème au niveau de l'immobilier, au niveau des architectes, au niveau des promoteurs et aussi au niveau de la réglementation, parce qu'on a réglementé, on a imposé des surfaces qui ne sont pas des surfaces de vie, mais qui étaient des espaces d'utilité, des espaces d'agrément. Et je pense qu'il serait intéressant que ce problème soit reposé. On a vu, par exemple, dans les impôts imbéciles récents, qu'on a mis une taxe sur les abris de jardin dans les maisons individuelles, ce qui est une absurdité totale. Alors, comme je vous disais, il y a donc ces dépendances qui sont liées aux activités familiales et qui étaient traditionnelles dans les logements. Et on a, au cours du confinement, vu qu'effectivement, on n'avait plus de place. Et il y a eu des réflexes dans un premier temps de stockage alimentaire qui ne correspondaient pas très bien aux agencements des logements. Et on a vu qu'en fait, une fois cette névrose collective passée, le système d'alimentation, le système des produits et de leur circulation a continué malgré toutes les contraintes qu'il y avait au niveau des déplacements. Alors, nous en reparlerons au cours de la deuxième partie, c'est-à-dire nous reparlerons du rôle des entrepôts et de la circulation des denrées dans la deuxième partie, pour rester dans cette première partie plus spécifiquement sur les logements, mais on peut étendre d'ailleurs au lieu de travail. Alors, cette disparition progressive de ces espaces, elle est liée à des raisons économiques, mais je pense aussi à des raisons culturelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans d'architectes sont des plans ouverts, des plans libres, et il y a une sorte de transparence de la vie, et les lieux qui sont un peu retirés, les lieux qui ne sont pas fonctionnels au sens de attribuer une fonction, et qui sont justement ces espaces intéressants dans la vie communautaire, où on peut avoir une pièce, même un petit coin qui est fermé, dans lequel on peut faire du bricolage, on peut faire de l'informatique, que sais-je donc, des activités artistiques ou autres. Et dans l'espace fonctionnel, tout est attribué à une fonction, et toutes ces activités aléatoires qui font partie de la liberté de chacun ou des groupes, évidemment, sont éliminées. Donc on peut aussi avoir une réflexion sur ces espaces, et aussi de penser que, comme je vous disais, la ville, d'une manière plus générale, génère des lieux qui ne sont pas des lieux fonctionnels, ou du moins fonctionnels visibles. Alors, si on revient en arrière et dans le temps passé, on voit bien que les bâtiments eux-mêmes étaient constitués d'une hiérarchie d'espaces dans laquelle il y avait les lieux nobles, de sorte, si on prend les hôtels particuliers, les maisons de la grande bourgeoisie, comme, et puis les châteaux et les palais. Il y avait les lieux, disons, de l'apparat social, et puis il y avait les pièces de l'intimité, et il y avait après toute une hiérarchie avec les serviteurs, les services, et ce que l'on peut retrouver aussi dans l'immeuble haussmannien, où il y a les chambres de bonne dans les derniers étages. Alors, et bien évidemment, il n'y a aucune nostalgie à revenir à ce mode de vie, mais on a jeté probablement le bébé avec l'eau du bain, parce que la hiérarchie des logements ou des lieux de travail et par extension de la ville était visible par le traitement architectural et par un traitement architectural qui était homogène. Vous savez par exemple que les châteaux, il y avait les écuries, il y avait les communs. Alors c'est vrai que le sort de cette domesticité n'était pas très, très enviable, mais la cohérence et la continuité architecturale faisaient, je crois, la beauté qui perdure aujourd'hui dans ces bâtiments. Alors aujourd'hui, on a une sorte de dualité entre ce qui est montré et ce qui est caché. Et ce qui est caché a pour une grande part disparu, ou quand ça apparaît, ce sont des espaces dont on ne parle pas. Bon, c'est justement ce dont on parlera tout à l'heure, c'est des entrepôts et aussi des cabanes de jardin qui ne sont pas dans une grande cohérence architecturale, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait, l'architecture qui ne fait que montrer les espaces de vie, a perdu ce langage complexe de la cohérence de la hiérarchie, et on pourrait tout à fait, sans faire de la nostalgie ni de retour en arrière, repenser le sujet. Et ça demande pour cela, d'abord, d'avoir la conscience de cela, deuxièmement, de se donner les moyens pour que les populations soient satisfaites dans un mode de distribution de l'espace un peu différent. Et puis, évidemment, il faut que derrière, la réglementation, à la fois des permis de construire, la réglementation fiscale aussi suive et que ne soit pas imposée d'une manière scandaleuse et décourageante pour les bonnes volontés, ces espaces qui sont à la fois utiles et qui peuvent être des espaces de transition et des espaces beaux. Alors ce n'est pas l'éloge du cellier que je fais, mais c'est un éloge beaucoup plus général. Et par exemple, les loggias et les balcons que l'on a vus disparaître au cours de ces dernières années, on s'est rendu compte que les gens qui avaient déjà des grands balcons et des espaces de sortie pendant le confinement ont eu une vie plus agréable, et ceux qui évidemment ceux qui avaient des maisons et avec des espaces justement de dépendance importants ont pu avoir un confinement qui était non seulement moins désagréable, mais pour certains, la possibilité d'activités autres et de pouvoir, au contraire, les utiliser et les aménager. Donc, ma conclusion provisoire, c'est qu'on peut justement profiter de cela, non pas pour remettre, comme on entend aujourd'hui, la politique de certaines nouvelles municipalités, remettre des impôts, remettre des contraintes, mais au contraire, libérer, et notamment libérer la fiscalité par rapport au logement. Bon, je parlerai tout à l'heure du travail et du rôle justement des entrepôts. On va faire une pause musicale. Comme je vous disais, donc, les villes, de la même manière que les logements, ont les parties utiles, visibles, fonctionnelles et on pourrait dire nobles. Et dans la ville ancienne, il y avait des lieux qui étaient des entrepôts. Alors, par exemple, c'était les halles de Paris, c'était les entrepôts à vin et un grand nombre de bâtiments qui étaient des bâtiments utilitaires. Même, on peut dire, par exemple, les abattoirs à Toulouse, on les a reconvertis en lieux culturels parce qu'ils étaient d'une belle qualité architecturale et tout en étant fonctionnels et adaptés à leur destination, il n'y avait pas une architecture différente comme aujourd'hui où on a des bâtiments qui sont solides, qui peuvent être construits en parpaing, en briques, avec des matériaux de bonne qualité. Et puis, il y a ces bâtiments annexes, entrepôts divers, qui sont faits avec des matériaux bon marché et surtout qui sont faits sans aucun dessin architectural et posés au point de vue urbanistique n'importe comment à l'entrée des villes. Alors, la réaction que l'on entend dire, c'est l'enlaidissement des entrées des villes et la suppression que l'on devrait avoir des entrepôts. Alors, je pense qu'il y a quand même de ce côté-là une petite erreur de la part des gens qui voudraient le bien de l'humanité et de comprendre que personne ne construit des entrepôts ou des bâtiments industriels et commerciaux pour uniquement enlaidir les accès des villes. Il s'agit simplement d'un manque d'attention général qui commence par les politiques et ensuite je pense que la profession d'architecte et d'urbaniste se bouche le nez pour ces zones extérieures, rien que le mot zone est tout un programme. Et qu'en fait, ça n'intéresse personne. Les écoles d'architecture, on fait des musées, on fait des logements, mais qui va faire comme programme des entrepôts, des abattoirs ou des usines de chaussures ou je ne sais quoi. Donc, il y a de ce côté-là, je pense, un rétablissement culturel de montrer qu'il y a une nécessité dans la ville d'avoir tous les niveaux de traitement hiérarchisé, mais d'une égale qualité. Et si on se donnait la peine de faire de la qualité architecturale, non pas uniquement pour des musées dont la plupart ne sont pas forcément d'une grande utilité sociale, dans un pays qui ne manque pas de châteaux, de bâtiments anciens, construire des musées actuellement, c'est le fin du fin, et on oublie quelle est la réalité de la vie. Alors, par rapport à cela, il y a d'abord une erreur sur ce rôle des entrepôts. Alors, je disais qu'il y a effectivement des entrepôts qui sont du type industriel, c'est-à-dire qu'ils abritent les activités nécessaires. Il y a les entrepôts qui sont de stockage. Et là, je crois qu'on n'imagine pas que, par exemple, pendant le confinement, c'est-à-dire que la circulation est arrêtée, ça continue de nourrir, de fournir, d'alimenter tous les commerces et la vie a continué comme si de rien n'était. Ça tenait à quoi ? Ça tenait, un, il y a des lieux de stockage et deux, il y a toute une infrastructure de circulation, de routiers, de voitures, de livreurs qui alimentent les commerces. Donc aujourd'hui, on est sur des caricatures entre le petit commerce et les grandes surfaces. Bon, il faut voir que les choses ne sont pas aussi simples. Par exemple, les marchés de plein vent où les grandes surfaces sont alimentées pareillement au marché-gare parce que les bananes ne poussent pas dans les jardins, les oranges non plus, et que de toute façon, même les fruits ou les légumes qui sont de saison, eh bien, ils demandent le temps de les acheminer, ils demandent des entrepôts frigorifiques, bon, c'est des entrepôts à faible température, mais en tout cas, des lieux de stockage qui donnent cette régulation. Donc, le problème de petits commerces, centres-villes, grandes surfaces, galeries marchandes, il y a exactement le même, les mêmes circuits. Quand on parle du commerce des centres-villes, on n'est plus au 19e siècle et les commerçants dans les rues commerçantes de Toulouse ne fabriquent pas les Nike dans leur arrière-boutique ou ne construisent pas non plus les ordinateurs ou les téléphones portables. Donc il faut regarder la réalité du monde d'aujourd'hui et justement, la ville est une sorte de reflet de ce qu'est l'organisation de la cellule d'habitation et de l'appartement. Elle a besoin, cette nécessité, justement, d'avoir ces espaces tampons. Et il devrait être, de ce fait, beaucoup plus cohérent, comme je vous disais. Et on a à la fois une fascination et une préservation du patrimoine qui est tout à fait généreuse, justifiée et qu'il faut encourager, mais on n'en tire aucune leçon. Les mêmes, je vous disais, qui vont aménager des entrepôts en lieu d'échange culturel, ne pensent pas, vont signer des permis de construire pour des horreurs dans les périphéries, dans les campagnes. Alors, pour revenir à cette vision qui est une vision de la transparence et qui nie tout ce qui est caché, il ne faut pas s'imaginer que c'était valable qu'avant et que le monde moderne a complètement éradiqué avec le monde de la transparence et des vitres que les bâtiments n'ont pas cela, n'ont pas cette nécessité. Alors, il y a une anecdote qui me plaît bien, c'est celle d'un architecte américain qui s'appelait Louis Kahn, qui a vécu de 1901 à 1974, donc dans son activité essentiellement a été faite dans la deuxième après-guerre. Et il avait un rapport à la fois à la modernité et à la fois à cette lecture du passé comme source d'inspiration. Et il a réalisé pour Jonas Salk, qui était le médecin qui a inventé le vaccin de la poliomyélite, il a dessiné des laboratoires sur la côte ouest des États-Unis, à une ville qui s'appelle La Jolla, en Californie, et qui est bon, un lieu admirable au-dessus du Pacifique. Et au lieu de faire le principe du laboratoire avec un élément central où il y a les machines et tout autour les laboratoires, il a fait un étage de laboratoire et un étage, évidemment plus petit, dessous, qui était un étage, on peut dire, de service. Et il théorisait cela en disant il y a les espaces servants et les espaces servis dans toute l'histoire de l'architecture. Et évidemment, il l'appliquait dans les constructions qu'il faisait. Alors, à cette époque-là, évidemment, c'était assez surprenant et on lui reprochait justement d'être passéiste et de gaspiller l'argent en faisant un étage qui, c'est vrai qu'au moment où les laboratoires se sont installés, n'était pas très fourni. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans les 10 ans qui ont suivi, les laboratoires qui étaient faits sur le système traditionnel, hein, avec donc les laboratoires tout vitrés et avec le cœur qui était de service, bah, évidemment, il y a eu des nouveaux appareils, des nouvelles technologies, et il a fallu les démolir parce qu'en fait, on ne pouvait plus les rentrer dans ce cœur qui était au centre du bâtiment. Par contre, les bâtiments de Salk, eh bien, les bâtiments qu'a fait pour Salk, Louis Kahn, Eh bien, justement parce qu'il avait pris un principe assez simple, comme on faisait les bâtiments, non plus une comptabilité programmatique de fonctionnaliste, mais il avait fait un étage de plus, un étage pas cher, un étage non chauffé, et dans lequel il y avait les machineries. Et que dans les années d'après, justement, ces laboratoires de biologie, qui sont assez importants, je crois qu'il y a 800 chercheurs, enfin, c'est assez important, ont été remplis par le nouveau matériel et fonctionnent maintenant. Je crois que ça fait 50 ans après. Voilà, donc c'est un exemple qu'il y a de la modernité qui doit se raccorder au passé. Et nous reparlerons une autre fois aussi de la circulation des denrées dans l'espace urbain. À la semaine prochaine. C'était Où vivrons-nous demain ? Merci à Yanis qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?